Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Retour avec le professeur Francis Waldvogel. Francis, vous vous rendez le plus compréhensible possible pour les non-scientifiques que nous sommes. Et nous parlons en ce moment de votre livre « Tableau de la vie, échange, émergence, complexité ». C'est très vaste et ça repose surtout donc sur notre non-perception de la réalité du monde qui nous entoure, ce qui est assez à la fois effrayant, pourrait être effrayant, mais finalement est très beau puisque ça débouche sur les échanges entre les humains.
Je dirais que pas qu'on a une fausse vision du monde, on a une bonne vision du monde puisqu'elle est donnée par nos yeux, par notre ouïe, par notre sens tactile, nos sens, etc. Et ensuite, c'est transformé grâce au processus de mental qu'on est capable de faire dans des images, des concepts, etc. Je pense qu'on a une image juste du monde. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'on peut avoir une autre vision du monde qui tient plus compte de ce que toute la science nous a apporté ces dernières années. Elle ne va pas déplacer la première vision du monde que vous avez très joliment décrite, elle va la compléter. C'est une autre façon de le voir qui complète la première façon de voir le monde. Et dans cette nouvelle façon de voir le monde, en effet, ce qui me frappe, c'est que en utilisant finalement ce que la science nous apporte à l'heure actuelle, c'est qu'on arrive à entrer dans un monde presque plus scientifique, mais en même temps plus poétique.
Voilà. Vous savez, tout à l'heure, quand vous avez parlé dans la montagne, lorsque un promeneur voit du rouge, du vert, etc., j'ai trouvé ça très poétique. Ça m'a fait penser à une peinture.
Parce qu'en fait, si vous voulez, même schématiquement, les limites de la feuille que je décrivais tout à l'heure, quand on essaie de parler d'échange, elle devient floue. Elle devient comme dans un joli tableau, elle perd sa netteté, elle devient plus évanescente parce qu'on se rend compte qu'elle est juste là pour échanger avec l'extérieur et produire ce magnifique gaz qu'on appelle l'oxygène qui nous permet de vivre, parce que si ces feuilles ne le produisaient pas, si elles étaient inertes, on n'aurait pas l'oxygène, nous on serait pas là. Donc la science nous amène finalement à une vision presque plus, plus poétique du monde et surtout plus interconnecté du monde. Et je pense que un des grands défauts de notre civilisation à l'heure actuelle, c'est sa fragmentation. C'est de croire que chacun pense séparément juste, croit qu'il pense juste et qu'il pense pas. Mais on est tous interconnectés, on est une grande, grande famille, immense, immense famille de molécules, d'atomes, de choses qui s'échangent en permanence. Et c'est ça qui fait la beauté. Et moi, pour moi, c'est ça qui me fait me lever le matin avec le sourire aux lèvres, me coucher le soir avec le sourire aux lèvres.
On est interconnecté.
Oui.
La façon de se lever avec le sourire.
Avec tous les autres, avec les auditeurs et les auditrices que vous avez maintenant à travers le réseau informatique, avec Internet et tout ce que vous voulez.
On est écouté aussi dans 122 pays sur Internet.
Un exemple que je vais vous donner. Quand vous regardez votre main, vous avez des ongles. Et vous avez des ongles, si vous n'avez pas les ongles sont roses. Ils sont roses, pourquoi? Parce qu'ils ont des capillaires qui circulent. Ces capillaires contiennent du sang. Ce sang circule très lentement et décharge l'oxygène au niveau de vos doigts pour nourrir vos doigts.
C'est pour ça que quand on se coince un ongle, il devient noir.
Et voilà. On sait que le transport de cet oxygène de vos doigts, le pigment rouge du sang, c'est dû que la molécule d'hémoglobine, qui est dans l'hémoglobine, la molécule des globules rouges, contient du fer. Maintenant, je peux vous dire que si vous regardez votre main droite et vous regardez votre main gauche, l'atome de fer qui circule dans votre troisième doigt, ici, et l'atome de fer qui circule dans votre quatrième doigt, viennent d'horizons totalement différents. Mais d'horizons totalement différents.
Ces horizons, qu'est-ce que c'est ces horizons?
Celui de droite, il vient peut-être de notre galaxie. Le gauche, il vient peut-être de Sirius.
Sirius?
Oui. Grande stupéfaction. Mais moi, depuis que j'ai appris ça, je trouve que c'était extraordinaire. Parce que pour faire les atomes lourds, comme le fer, il fallait des collisions absolument gigantesques d'étoiles. Et c'est à ce moment-là que les atomes de fer ont été créés. Sans ça, il n'y aurait jamais eu d'atomes de fer. Et d'une façon ou d'une autre, ils ont, grâce à la création des galaxies qui ont tourné et tourné, et puis au niveau des galaxies, les systèmes solaires qui ont tourné et tourné, et puis la Terre qui a tourné, le fer atterrit, il y a du fer qui atterrit chez nous. Mais il n'y a aucune façon de croire, de savoir, de penser que l'atome de fer de votre main droite et de votre main gauche vient de la même galaxie.
Mais alors, quand on dit tu descends de Sirius, on n'a pas tellement tort, finalement.
Mais vous savez que Hubert Reeves, que je mentionne dans le livre, qui est un ami avec qui j'ai beaucoup, beaucoup discuté, nous dit nous sommes des poussières d'étoiles.
C'est joli, ça aussi.
Mais oui, il a fait un magnifique livre qui s'appelle Poussières d'étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et nous descendons peut-être ma main droite et le fer de ma main droite, ma main gauche ne viennent pas de la même galaxie. C'est quand même incroyable.
Est-ce que c'est pareil pour tout le reste? J'allais dire pour le bras droit, le bras gauche.
Oui, mais bien sûr. Moi, je vous donne un exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais pour le résumer, c'est vrai pour
la main. Mais alors, comment ça se fait que. Ben alors, est-ce que ça explique que les deux profils soient légèrement différents?
Non.
Non, c'est pas ça.
Je pense pas. Non, c'est simplement pour vous dire, les pierres de construction de notre. Parlons de l'être humain, c'est peut-être plus simple parce qu'on en est là. Les pierres de construction de l'être humain, elles sont essentiellement faites de 5 différents atomes, ou 6 différents atomes. C'est le carbone, c'est l'hydrogène, c'est l'oxygène, c'est l'azote. Il y a un petit peu de phosphore, c'est à peu près ça. Voilà. Alors ces atomes-là, ils ont été créés plusieurs millions d'années après le Big Bang sur la Terre. Ça, on sait. C'est des collisions de ces particules qui se sont mises ensemble, qui ont fait des atomes. Ça, c'est le parti. Mais tous les éléments plus rares qui font le corps humain, le calcium, le sélénium, le magnésium, etc., ça vient d'ailleurs. On sait que ça ne pouvait pas être fait ici. Donc, ça a été fait beaucoup plus tard sur ce qu'on appelle les supernovae. Des supernovae. C'est des exploits immenses. Qui ont explosé, qui a condensé la matière.
Attendez, là j'ai mal compris. Qu'est-ce qui a explosé? Alors, c'est supernovae.
Ça
ressemble à quoi ça?
Un immense amas d'énergie. Une énorme boule de feu, si vous voulez. Énorme. Pas petite boule de feu, énorme boule de feu. Et puis à ce moment-là, pour une explosion, tout ceci se collabe, et puis ça crée des nouveaux atomes. Ça crée le phosphore, ça crée le calcium, c'est les autres atomes qui font pas le fer, dont je parlais tout à l'heure, le cuivre, etc. Donc ce que je vais dire par là, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on peut dire que les éléments de construction du corps humain, donc les atomes du corps humain, une bonne partie ont été créés après le Big Bang sur la Terre. Mais ça a pris des temps pour le faire. Et puis ensuite, les plus lourds, ils sont venus d'ailleurs.
Alors l'ailleurs, c'est quoi? C'est où?
c'est ce que croyait être le vide sidéral, mais qui n'est pas un vide. C'est un plein.
Là aussi, c'est tout plein. Là aussi, ça tourne dans tous les sens, ça tourbillonne.
Là aussi, ça tourbillonne. Il y a d'énergie. C'est tout. Alors, il y a des concentrations d'énergie.
J'ai presque peur de tomber de ma chaise.
Je la tiens. Mais c'est important d'affiner cette idée parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure. Vous m'avez dit à un certain moment, alors on est presque, si vous dites que l'atome c'est du vide et puis que le noyau c'est encore du vide, on est assis sur du vide. Oui et non. J'ai pris comme analogie dans le livre l'exemple d'une tente de tennis, d'une courte de tennis en hiver. Ces bulles qu'on gonfle pour jouer au tennis. Quand on entre cette bulle, elle est vide, parce qu'il n'y a rien. Mais elle tient parce que...
Par la soufflerie.
Parce qu'il y a une soufflerie qui mène de l'énergie, donc il y a de l'énergie qu'on ne voit pas, mais l'énergie, elle tient la bulle. La bulle, l'atome, c'est la même chose. Il y a une petite soufflerie au centre, c'est le noyau. Et puis ensuite, il y a de l'énergie à l'intérieur qui n'est pas une soufflerie, évidemment, mais qui tient les électrons à distance. Et c'est pour ça que les électrons sont 10 000 fois plus loin. Parce que cette énergie tient les électrons à distance. Alors, c'est comme ça que le monde est fait.
Je suis un peu perdu, là.
Quand on dit que le monde est... quand c'est vide, C'est pas du vide comme on a l'habitude de voir. C'est un vide qui est rempli de particules qui s'échangent.
C'est un vide qui est plein.
Qui tient, et de particules qui s'échangent grâce à cet échange qui maintiennent en fait le volume nécessaire pour que la matière ait de la matière.
Francis, est-ce que vous diriez qu'on est dans un tourbillon permanent alors ?
Oui, alors sûrement. Dans ma tête, c'est déjà comme ça. mais je dirais pas.
Ça va devenir dans la nôtre aussi.
Mon corps est un tourbillon permanent. Mon corps est un. Chaque cellule est une petite usine. Elle reprend des produits. Elle rejette des produits. Elle produit de l'insuline. Elle produit des hormones. Elle produit des substrats pour faire marcher mon cerveau. Mais pour ça, il faut la nourrir. Donc, il y a des camions qui arrivent, qui apportent la nourriture, qui apportent de la nourriture sous forme de sac. Il y a des ouvriers à l'intérieur qui transforment cette nourriture en objet plus important. Il y a des tracés pour sortir ça de l'usine. À l'extérieur de l'usine, il y a un bureau de vente. Ils le vendent pour apporter des gens. Et puis, c'est comme ça, en permanence.
Ouf, on va écouter un peu de musique.
Oui.
Vous êtes sur Radio Cité 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec le professeur Francis Waldvogel. Nous sommes avec le professeur Francis Waldvogel qui nous explique des choses extraordinaires. Vous pouvez les lire dans son livre Tableau de la vie, sous-titré Échange, émergence, complexité aux éditions Odile Jacob. Et c'est tellement mieux de l'écouter, nous décrire ce tourbillon permanent, invisible dans lequel nous vivons. Alors tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, vous êtes assise sur du vide, mais du vide qui est plein. Maintenant, je sais que je suis dans un tourbillon permanent. J'en ai presque le vertige, mon cher Francis. Alors expliquez-nous davantage.
Oh bien, la nature a très bien fait les choses, parce que de ce tourbillon qu'on décrit émerge la vie. C'est quoi la vie? On n'en a pas encore parlé.
Non.
On a parlé du tourbillon, mais qu'est-ce qui fait que tout ceci fait émerger cette propriété absolument extraordinaire qu'une cellule croît, se divise et ensuite meurt? Et le calme va être réintroduit par cette forme d'émergence. En quelque sorte, la vie, tout à coup, vous mettez ces molécules ensemble, toutes les diverses, dans un tourbillon, etc. Et puis, leur échange produit quelque chose qui est d'absolument extraordinaire, qui est la vie.
Est-ce que la longueur de la vie de chacune de ces cellules est programmée à l'avance, ou est-ce que ça va être les conditions qu'elle va rencontrer?
Il y a les deux choses. Le cycle naturel est évidemment qu'une cellule, à un certain moment, lorsque les éléments sont présents, et puis qu'elle fait, à un certain moment, on ne sait pas pourquoi, naît quelque chose qu'on appelle l'émergence de la vie, qui est une vérité. Vous me demandez ce que c'était une qualité émergente. La qualité émergente, la principale que je connais, c'est la vie. C'est-à-dire le fait que la cellule s'est dit « Ah, maintenant, je suis vivante, et je peux continuer à me développer, je peux me diviser, je peux faire une cellule, et puis j'ai une certaine autonomie. » C'est-à-dire, je suis indépendante. Mais c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment ça, l'émergence de la vie, absolument incroyable.
Elle n'a aucune conscience, la cellule. Elle est programmée.
Alors là, on sait que les cellules sont programmées pour mourir. Toutes les cellules meurent un jour. Et c'est ce que j'essaie d'écrire, mais ça me mènerait trop loin parce que c'est compliqué à expliquer. On est dans un état thermodynamique instable. La cellule est constamment...
Thermodynamique.
La cellule lutte constamment contre la mort parce que spontanément, elle a tendance à s'effondrer. Elle lutte constamment contre la mort. Et c'est ce qu'on appelle la pulsion de la vie, c'est cette émergence. Et certainement, cette pulsion diminue. Et à ce moment, quand cette pulsion diminue, la cellule, elle se désagrège.
Alors, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est moral, cette diminution?
C'est physique.
C'est physique. Alors, c'est purement physique.
Non, je veux dire, si on parle par la suite du cerveau humain, ça devient moral, mais dans la nature, dans tous les jours, c'est purement physique.
Donc il y a bien une programmation
Il y a une programmation qu'on appelle l'apoptose, qui est un terme que.
On va apprendre tellement de termes savants aujourd'hui.
Toute cellule est programmée à mourir. À un certain moment, cette lutte pour maintenir son état de vivant baisse. Et quand son état de vie, cette lutte est vaincue, la partie qui la détruit essaie de vaincre, la cellule se ratatine sur elle-même, elle se ratatine, elle devient extrêmement petite, elle se fragmente. Ensuite, il y a les éboueurs du corps humain, c'est-à-dire les globules blancs qui viennent. Ils viennent ramasser cette cellule, ils la prennent, ils la font disparaître. Puis,
mais il la dévore, qu'est-ce qu'il faut?
Oui, elle est décomposée, elle est toute ratatinée, toute petite, fragmentée.
Oui, mais les petits fragments.
C'est comme des poubelles. Et là vient la merveille, tout est recyclé. C'est-à-dire, ces éboueurs arrivent, ils prennent ces cellules, ces fragments de cellules, et les mangent, etc. Et puis ensuite, ils les renourrissent au corps pour faire des cellules ailleurs. C'est absolument merveilleux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mort programmée. Et chaque cellule sait qu'à un certain moment, il faut qu'elle fasse ça. Alors, il y a une autre mort, c'est la mort qu'on appelle nécrose. Ça, c'est un terme médical. Mais c'est
la nécrose, alors là aussi, ratatine,
non? La nécrose, c'est une mort violente. À un certain moment, c'est l'autre forme, c'est la mort accidentelle. La première mort dont je vous ai parlé, c'est la mort programmée naturelle.
Vous l'avez appelée un...
Apoptose.
Apoptose. Ouais. Donc, apoptose et nécrose.
Et la nécrose, au contraire, c'est une mort accidentelle, c'est le coup de bistouri, c'est le coup de poing, c'est les radiations, c'est l'accident de voiture, c'est le virus qui vous ramasse,
c'est brutal,
etc. Et ça, c'est la mort accidentelle brutale. Et là, la cellule, elle est détruite immédiatement. Elle, brutalement, elle, elle...
Il y a une activité que nous ignorons, insensée.
Ben oui, ben je vous disais tout à l'heure que vous étiez un tourbillon, vous vouliez un exemple. Voilà, voilà des nombreux. Et c'est comme ça que ça... Mais de tout ceci émerge à certains moments, justement, là, le concept d'émergence de vie. Et si vous me permettez que j'aille tout, tout petit peu plus loin maintenant, vous pouvez parler la même chose du cerveau humain. Le système nerveux, c'est 25 milliards de cellules, 25 milliards de cellules, je veux dire, c'est 25 milliards, c'est comme ça, un nombre de connexions absolument incroyable, incroyable. Et de ça, créer, à cause de ma mémoire, à cause de mes souvenirs, à cause de ma vision, à cause de mon audition, à cause de l'échange que j'ai avec vous, créer quelque chose qu'on appelle la conscience, qui est un élément de nouveau émergent absolument extraordinaire, qui fait que je suis un être conscient, que je peux réfléchir, que je peux penser, et que je peux faire des programmes, que je peux faire des prévisions.
Francis, est-ce que vous croyez à ce phénomène qui est particulier dans certaines régions qui sont peut-être un peu reculées, où il y a des hommes et des femmes qui ont une visibilité sur l'avenir, qui ont une vision sur l'avenir, à qui il apparaît des flashs? Est-ce que vous croyez à ça ou pas du tout? Parce que tout ce que vous me dites là, avec cette activité bouillonnante, avec ces tourbillons, avec...
Oui, mais vous comprenez, y a le, comme je l'ai dit, on aura peut-être le temps d'en parler, je suis à mi-chemin entre le hasard et la nécessité.
Encore, c'est comme la religion.
Je pense que ça amène la notion des systèmes complexes. Nous vivons dans des systèmes complexes. Et les systèmes complexes sont absolument passionnants. Ce sont des systèmes dont la formulation mathématique a été très, très bien décrite ces dernières années. Le système complexe est à mi-chemin entre le déterminisme complet et puis le chaos complet.
C'est un peu ce qu'on appelle le paranormal, là, auquel on fait allusion.
Non, c'est encore autre chose. C'est plutôt l'idée que les systèmes complexes sont très très sensibles aux conditions initiales. Si vous voulez, la meilleure métaphore pour le système complexe, c'est l'effet papillon. Vous avez un battement de papillon dans la forêt vierge d'Amazonie, vous avez un ouragan au Texas. Et ça se vérifie, c'est vrai. C'est parce que c'est les systèmes, comme on revient
à l'interconnexion,
liaison de tout, des petites modifications dans les systèmes complexes au départ peuvent donner d'extrêmes modifications à distance. C'est pour ça que pour l'instant, on ne peut pas déterminer la météo à plus de 10 jours, parce que la météo, c'est un système complexe par excellence. Et quand vous avez jamais l'opportunité de connaître toutes les conditions initiales pour prédire ce qui va se passer quelques heures plus tard. Et quelques heures plus tard, connaître toutes les conditions pour ce qui va se passer plus tard, ça va comme un éventail. C'est l'hypothèse de l'hypothèse de l'hypothèse, si vous me comprenez.
Mais alors, comment se fait-il qu'on tombe juste, alors, des milliards d'hypothèses?
On tombe jamais juste à plus de 4-5 jours. Pour l'instant, c'est mathématique. Et c'est dû au fait que dans des systèmes complexes, on peut jamais déterminer toutes les conditions idéales jusqu'au dernier détail. Et c'est pour ça que le système... Donc, pour revenir à ce que vous dites, moi, je ne pense pas qu'on puisse véritablement prédire à long terme l'avenir. Je pense qu'on peut faire des hypothèses, plusieurs hypothèses, parce qu'en choisissant différentes conditions initiales. À ce moment-là, on peut dire, ça peut aller comme ça, peut-être comme ça, mais aller avec détermination, dire ça va être comme ceci, je pense que ni les mathématiques, ni la théorie des systèmes de réseau, qui est une science, c'est une véritable très bonne science, ni la mathématique, ni la théorie des sciences vous permet de le dire.
On va encore écouter de la musique, là, parce que c'est important.
Thank you.
retour avec le professeur Francis Balvogel. Vous avez une question à me poser, mon cher Francis.
Oui, oui, mais la question, des fois, je vois écarquiller les yeux et j'ai peur que je ne sois pas assez clair.
Alors si vous voulez. C'est là où je vous demande des explications, parce que je pense à nos auditeurs qui
sont
pas tous
et moi surtout,
des scientifiques.
Et moi surtout à eux, je pense à eux et à elles.
Beaucoup. Voilà. Ouais. Alors si je le suis moment où j'écarquille les yeux, je vous pose une question complémentaire.
Alors d'accord,
alors,
on est
tout
d'accord.
Compris, ouais. Là, mes tourbillons, ouais. Le vide, ouais. Le vide qui est plein, le plein qui est vide, les tourbillons dans lesquels nous sommes, les inter-échanges qui aboutissent surtout à des échanges humains, ça c'est formidable, c'est aussi la partie qui nous plaît. L'effet papillon, ça c'est quelque chose qui a été assez divulgué.
Divulgué et
chanté. Les gens se demandent toujours si c'est vrai. Donc, vous confirmez que c'est vrai.
Ah oui. Un exemple que beaucoup de gens connaissent bien, l'effet papillon, c'est vous avez un arbre qui tombe sur une ligne de haute tension quelque part au nord de l'Allemagne. Et puis, vous avez 200 000 personnes sans électricité à Zurich. Oui. On a tous vécu ces choses-là ces derniers temps. À New York, ça a coûté une obscurité de plusieurs de 5 ou 6 millions de personnes, mais c'est un arbre qui tombe sur la ligne de tension. Mais c'est ça l'effet papillon, il y a un tout petit effet, et puis cet effet, comme les systèmes complexes par excellence, que c'est les réseaux, le réseau transmet ceci à toutes les directions, à toute allure, et puis le réseau a amplifié une histoire qui était en fait qu'un simple arbre d'une demi-tonne qui tombait sur une ligne de tension avec un diamètre de 5 mm. C'est incroyable quand vous y pensez. Mais ça, c'est une réalité, donc ce n'est pas une invention.
Alors, je vais abandonner les arbres très provisoirement. Je vais revenir aux feuilles dont vous parliez tout à l'heure pour la chlorophylle, mais je voudrais parler des abeilles.
Oui.
J'adore les abeilles.
J'aime beaucoup les abeilles.
Mais oui, moi aussi.
J'aime beaucoup les fourmis, j'aime beaucoup les abeilles.
Ah, les fourmis, je ne sais pas. Ça, c'est quand on a laissé la confiture sur la table.
Oui, mais on en parle comme un tout petit peu des fourmis parce que c'est une intelligence collective absolument fantastique.
Ah bon?
Les fourmis, incroyable. Les abeilles, évidemment, c'est un très très bel exemple de cette interaction dans la nature. C'est que les abeilles, elles butinent. Moi, j'ai regardé hier, ces derniers jours dans mon jardin, j'étais surpris, je voyais deux abeilles qui butinaient. Il y en avait une qui allait que sur des fleurs bleues et puis l'autre que sur des fleurs blanches.
Alors, vous pensez que c'est leur goût ou leur vision?
J'avais exactement cette question, Viviane, et j'ai pas la réponse. Je me suis demandé si c'était l'odeur, si c'était une fleur, si c'était l'odeur ou si c'était autre chose. Mais le vent sur l'un et sur l'autre. Et avec ça, quand elles butinent pour prendre le nectar, elles ont les jambes de derrière qui bougent.
Oui. Elles bougent aussi.
Elles bougent aussi. Avec ça, elles prennent du pollen. Avec le pollen, elles vont sur l'autre fleur blanche et puis ou sur l'autre fleur bleue et elles pollinisent la fleur. Et comme j'ai entendu dire, parce que j'ai pas fait les mesures moi-même, 30% de la pollinisation de toutes les fleurs et des fruits sont dus à des abeilles. Donc, elles jouent un rôle extrêmement important dans notre vie.
Oui, c'est pour ça qu'il faut absolument les protéger.
Ah oui, si se passe maintenant, je pense qu'on a tout à fait raison de faire attention. C'est une chose de plus où on a été imprudent.
Oui, mais on a été très imprudent.
Oui.
On a été très imprudents. Alors, on ne va pas parler de toutes ces imprudences, parce que ça nous amènerait trop loin, mais par contre, j'aimerais beaucoup parler d'un passage dans votre livre qui m'a beaucoup touchée. C'est le moment où le grand professeur Francis Balvogel devient lui-même un malade. Parlez-moi de ce passage-là qui est essentiel. Il est à la fin de votre livre, mais il a dû être... Enfin, c'est vous qui allez en parler.
Écoutez, c'est quelque chose qui m'émeut toujours quand
j'imagine.
Je vais en parler, parce que j'estime que je suis un miraculé de la médecine. Alors, je me suis donné beaucoup, beaucoup de peine pendant plus de 40 ans à pratiquer ma profession de façon la plus sérieuse possible. Je crois que je peux dire que j'ai pas mal de personnes que j'ai réussi à sauver, à guérir. De temps à autre, dans mon service, quand on avait des malades, un malade extrêmement compliqué, à la fin de la visite, je demandais à tout le monde, infirmiers, stagiaires, médecins, etc., Quel est le malade le plus difficile qu'on a vu aujourd'hui à la visite? Puis disons, on se mettait d'accord, c'était tel et tel. Et puis je disais, je levais mon doigt comme je l'ai fait dans mon tapis. Je dis, maintenant, pas d'erreur. Pas une erreur. Mais pas une erreur, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler consciencieusement. Il faut travailler consciencieusement avec l'autre. Vous n'avez pas de professeur, vous n'avez pas de chef de clinique, on est tous au même niveau. Infirmière, aide-infirmière, la personne qui nettoie le sol, etc. On va tous s'arranger pour travailler tous ensemble. Et c'est ce qu'on appelle maintenant l'intelligence collective. Alors, il émerge de cela, c'est de nouveau une émergence, il émerge de cela, mais je ne savais pas à ce moment-là, une sorte de volonté commune de tout le monde, d'écouter ce que fait l'autre, être sûr de faire juste, et d'aider l'autre pour quelque chose qu'il ne savait peut-être pas faire, et puis de rompre finalement la hiérarchie. Ce n'est pas une chose qu'on peut faire pour beaucoup de personnes, ce n'est pas une chose qu'on peut faire éternellement. Ça dure un certain temps. Chapitre clos. Moi, j'ai eu un gros ennui de santé, c'est-à-dire j'ai dû me faire changer une valve cardiaque. Cette valve cardiaque, c'est une grosse opération, mais qui est bien programmée. Et malheureusement, des morceaux de cette valve abîmés se sont fragmentés et sont partis au cerveau. Je m'en suis rendu compte après 48 heures, mais pas tout de suite.
C'est vous qui vous en êtes rendu compte et pas vos médecins.
Tout le monde s'est rendu compte. C'était un affolement général. Parce que c'était l'ancien patron qui est aux soins intensifs et qui fait des embolies cérébrales. Et je résume de façon courte parce que j'ai fini 48 heures après aux soins intensifs, mais dans un état lamentable, neurologique. Mais j'avais mon cerveau et je me rappelle très bien de m'être dit, si je fais encore une embolie cérébrale, je vais perdre conscience et puis c'est la fin. Et j'étais triste, j'étais pas angoissé, mais j'étais triste. Je me dis, mais j'ai tellement
encore à donner,
à faire, etc. Et là, j'ai fait réunir les 12-15 personnes qui s'occupaient de moi, c'est le chirurgien cardiaque, le cardiologue, l'interniste, l'infirmière, les aides infirmières, le physiothérapeute, l'ergothérapeute, les diététiciennes, la personne qui s'occupait de je pouvais plus avaler, donc on m'a mis une sonde gastrique, j'ai dû me nourrir pendant 2 mois en sonde gastrique, puis j'ai réuni tout ce monde dans mon bureau, c'est un joli lapsus, devant mon lit, j'arrivais à peine à parler, j'avais plus de paroles, j'avais plus de son, je devais parler, je devais chuchoter. J'aurais dit, maintenant, si on fait bien, si on fait pas une erreur, on a 2 mois pour me tirer d'affaire. Mais on fait pas une erreur et on fait exactement ce que j'ai fait de temps à autre à vie malade. Et tout le monde s'est mis au travail et tout le monde, j'en suis vraiment ému de lire et tout le monde était exemplaire. Il n'y avait plus de chef, plus de responsable, on a fait un grand tableau blanc, tout le monde écrivait toutes les remarques possibles à mon chevet pour être sûr que l'autre était bien au courant. Ma famille était absolument remarquable. Et puis 2 mois plus tard, je suis sorti de l'hôpital, pas encore guéri, mais voyant que je serais probablement guéri.
Et vous pensez que sans cette intelligence collective, vous auriez malheureusement disparu de cette terre?
Soit disparu, soit je serais quelque part dans une maison de retraite avec des soins importants, etc. Non plus finir. Après ça, j'ai découvert, quand on te mentionnait, il y a Boris Cyrulnik qui a écrit, j'ai lu ça cette année, il a écrit un livre magnifique sur l'intelligence collective de la résilience collective. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Enfin, avant que Boris Cyrulnik écrive son livre, mais c'était exactement ça, c'était faire émerger une intelligence collective d'un groupe de personnes pour une durée limitée, à condition de se mettre toutes d'accord sur ce qu'il faut faire.
On va reparler tout à l'heure des fourmis, mais en attendant, on va écouter un peu de musique pour Jean-Francis.
Thank you.
Nous sommes avec le professeur Francis Waldvogel. Nous venons de l'entendre dans un passage très émouvant où il a été lui-même le malade, et le malade sauvé au fond par l'intelligence collective, dont il nous a expliqué que c'était chaque personne, chaque membre d'un groupe qui donne le meilleur de soi-même. C'est extrêmement important. Et tout à l'heure, mon cher Francis, vous avez dit « J'aime les fourmis parce qu'elles sont un bon exemple de l'intelligence collective ». Alors, on revient aux fourmis ?
Très volontiers, très volontiers. Je suis devenu un passionné des fourmis par un ami. Cet ami est une personne très très âgée, professeur à Harvard, qui s'appelle Ed Wilson. C'est un héros, parce qu'il s'est intéressé toute sa vie aux fourmis comme un biologiste. Comme un naturaliste du 19e siècle, si vous voulez. Comme les naturalistes, les grands naturalistes du 19e siècle, il les observe. Et de ceci, il a tiré des éléments de sociobiologie des fourmis, sur lesquels je vais revenir. Et par la suite, il est devenu un expert de la sociobiologie en général, qui est une nouvelle science, en quelque sorte, que la biologie, que les animaux qui sont des êtres biologiques et une activité sociale et qui est structurée, c'est véritablement un monde neuf. Et moi, je l'ai invité plusieurs fois pour des conférences en Suisse. Il est devenu un personnage aussi extrêmement important aux États-Unis dans le domaine de l'interdisciplinarité par la suite, un philosophe et un écrivain. Ed Wilson m'a appris à regarder les fourmis et je m'amuse des fois dans le jardin à voir ce qu'elles font. Juste pour résumer l'histoire, les fourmis, c'est un très très bel exemple d'animaux qui sont très nombreux. D'abord, il y a 16 000 espèces ou 20 000 espèces de fourmis différentes sur la planète. A, B.
Les grandes, les moyennes, les petites.
B, probablement, c'est la masse des fourmis. La biomasse des fourmis est probablement largement supérieure à la masse humaine.
Qu'est-ce que la biomasse ?
Quand vous prenez toutes les fourmis dans un sac, vous les pesez, elles pèsent plus que l'humanité entière.
Mon Dieu.
Donc, un martien qui arrive...
Mais ça va être du respect maintenant quand je vais voir ces dames fourmis.
Voilà, donc un martien qui arrive sur cette planète et puis qui regarde ce qu'il y a, il dirait, bon, il y a des fourmis, puis il y a des êtres humains. Mais le nombre de fourmis, c'est largement supérieur aux êtres humains.
Donc, on va s'adresser aux fourmis plutôt.
Bah oui, il y a des gens qui disent que c'est eux qui possèdent la planète. Parce qu'il y en a partout, à part en Antarctique, en Arctique, il y en a partout. Et dans les mers, il n'y en a pas. Mais c'est ça, il y en a partout. Alors, les fourmis... Elles répondent, je ne vais pas vous raconter tout ça, parce que c'est des livres entiers. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les fourmis ouvrières répondent à un certain nombre de stimulations relativement simples. Ces stimulations relativement simples, ce sont des parfums. Donc, comme les parfums de que vous avez... Comme aftershave, etc. Les fourmis sécrètent des parfums.
Elles sécrètent des parfums,
pas 5 ou 6, mais des dizaines. On peut les grouper en 4 ou 5 catégories. Il y a un parfum qui est un parfum de danger. Quand un être étranger s'approche, elles font une pulsion de parfum dans l'air. Pour que les autres fourmis sachent qu'il ne faut pas s'approcher. C'est des parfums qui sont très volatiles, la durée très courte parce que le danger est bref. Il y a un autre parfum qu'elles sécrètent par leur ventre en marchant sur le sol. C'est un parfum de traçage. Quand elles ont trouvé un verre qu'on peut manger, etc., et elles ont pris un fragment, puis elles retournent à la fourmilière pour le déposer là-bas, mais sur ce trajet, elles déposent un parfum. Et la fourmi qui se balade là, elle dit « Ah, mais il y a un parfum », elle entre dans ses traces, puis elle suit ses traces, puis elle augmente le parfum.
C'est pour ça qu'on les voit à la queue leu-leu.
Mais absolument. Alors, ceci crée en quelque sorte des petits poussets, c'est le système du petit pousset. Alors, une autre hormone qu'elles ont, un autre parfum qu'elles ont, elles l'ont au niveau des jambes. Si je dois pousser cette table sur laquelle vous êtes, je dois marque-bouter. Je marque-boute en contractant mes jambes. Lorsqu'elles contractent leurs jambes, elles ont aussi un parfum qui dégouline le long de leurs jambes, qui dit « Ah, j'ai besoin d'aide. Et puis il y a d'autres fourmis qui viennent. C'est pour ça que les voyez qui arrivent,
faut ça. Lorsqu'il y a un poids à porter, elles sont.
Alors, voilà. Elles peuvent porter 60 fois leur poids. Elles font des ponts, mais de 200, 3000, 10000 fourmis ensemble pour franchir un obstacle pour que ça utilise, que ça soit une autoroute pour les autres pour ça passer par
le. Et vous savez qu'on va les regarder différemment maintenant.
Oui. Alors, ça veut dire que en se mettant tous ensemble avec des signaux relativement simples, elles créent une intelligence collective. Elles font des fourmilières où il y a des chambres pour les larves, il y a des chambres pour les cocons, elles cultivent des champignons, elles traient ces champignons parce qu'elles en raffolent du sucre de ces champignons. Des fois, elles battent des ailes pour faire, quand il fait très chaud, pour faire de l'air, pour avoir des ventilateurs. Et puis, il y a des fourmis qui sont des fourmis soldates qui vont à l'extérieur, elles développent des mâchoires plus grandes que les autres, puis elles attendent qu'un étranger arrive pour le manger. Donc c'est toute une organisation sociale absolument extraordinaire.
Ça pique les fourmis, ça pique.
Elles sécrètent de l'acide formique qui est désagréable.
D'accord.
Mais elles ont, et puis elles colonisent mais de multiples endroits. On sait qu'à l'heure actuelle, il y a une colonie, une méga colonie de fourmis qui va depuis Gibraltar jusqu'à Marseille. Qui contient.
Mais qui traverse la Méditerranée?
Non, c'est dans la Terre.
Dans la Terre.
Ce sont des milliards et des milliards de fourmis dans des millions de colonies. C'est une mégapole comme les plus grandes villes que nous connaissons. Et moi, j'aime beaucoup cette idée parce que les fourmis ont été créées à peu près il y a 60 millions d'années. Et quand elles ont été créées, elles ont créé en quelque sorte une intelligence. Mais c'est une intelligence qui n'a pas été jusqu'à Mozart, c'est une intelligence qui n'a pas été jusqu'à Beethoven, c'est une intelligence qui n'a pas été jusqu'au Corbusier, c'est une intelligence qui n'a pas été jusqu'au Pharaon, mais qui, quelque part, a buté contre un obstacle de développement. Il s'en est resté là. Et c'est pour ça que j'adore aussi les octopus, parce que c'est une autre piste d'intelligence que la nature a inventée. Donc, dans cette évolution absolument magnifique qui n'est pas totalement hasardeuse, mais qui n'est pas totalement aléatoire, il y a des voies différentes qui ont été prises pour les différentes émergences. Et puis, il y a des émergences qui sont arrêtées parce qu'on n'arrivait pas à aller plus loin, puis des émergences qui ont été plus loin, puis une émergence qui a été beaucoup plus loin, puis ça a créé les primates, ça a créé les Néandertaliens, ça a créé les Cro-Magnons, et ensuite ça a créé l'être humain, qui est, comme me disait un psychiatre absolument fantastique, un être admirable et misérable.
Mon cher Francis, je crois que malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête là, sur cette vision de nous qui sommes misérables. Mais nous ne sommes pas si misérables que ça, parce que nous vous avons écouté ce matin.
Oui.
Et c'était admirable.
Et c'est admirable, nous sommes misérables et admirables. Nous devons admettre que nous sommes des êtres ambivalents. Et c'est cette ambivalence qu'il faut tâcher de vivre tous les jours.
Merci Francis.
Merci à vous Viviane.
Merci Monsieur le Professeur Francis Van Vogel.
C'est un plaisir d'être là.
C'est un moment extraordinaire et j'espère que chaque auditeur aura à cœur de réécouter aussi la première émission pour vous découvrir davantage, puisque dans la première émission vous vous découvriez en tant qu'homme, petit garçon, homme d'âge moyen, avec la fameuse crise de la cinquantaine.
Voilà.
Et puis là maintenant, on est 11 ans après et je vois toujours un jeune homme devant moi avec la même passion. Merci beaucoup.
Un vieillard avec la même passion.
Non, pas un vieillard.
Mais la même passion de vivre, de comprendre et de pouvoir aider. C'est vraiment ça.
Merci infiniment.
Je vous en prie.
Merci infiniment. On remercie aussi Olivier Steinmetz qui a enregistré cette émission.
Merci beaucoup.
Et on vous dit à bientôt, Francis,
à bientôt.
Parce que j'aimerais vraiment qu'on continue ces conversations incroyables. Et je rappelle le titre de votre livre, Tableau de la vie. Aux éditions Odile Jacob. À bientôt.
Radio Cité Genève, Viviane DeVitte.
La bouteille à moitié pleine.